CJSO 101.7. Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Tête première, ici Denis Marion. Je pense que je le dis et je le répète à chaque semaine, je suis toujours impressionné par tout ce qui se passe dans la région. Il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose dont on peut parler. Et je souligne entre autres la tenue du gala du mérite économique qui va se tenir samedi soir. C'est toujours un grand moment pour le milieu économique dans la région. Donc on pourra voir au cours des prochaines semaines là, qui aura remporté les faveurs du jury à cette occasion-là. Ça va être quelque chose de très intéressant. D'autre part, vous savez, on est tous membres, l'ensemble de nos municipalités, en fait les municipalités de la MRC de Pierre de Sorel, les 12 municipalités, sont très actives actuellement dans plein d'affaires, eux autres aussi, et la MRC elle-même est très active. On parle souvent des élus, donc qui sont les maires des 12 municipalités qui siègent au conseil de la MRC, mais on parle un peu moins du personnel, et le personnel travaille très fort. Et avec le soutien des élus, ils ont travaillé à une programmation d'activités sous le thème « Vivant ici » qui va se dérouler au cours des prochaines semaines. C'est 14 activités qui vont se passer dans toutes les municipalités, c'est-à-dire chaque municipalité recevra au moins une de ces activités-là. Et ils veulent aborder différents enjeux qui sont importants pour le territoire, la gestion des matières résiduelles, la mise en valeur du patrimoine bâti, la préservation des milieux naturels, l'ouverture à l'autre, toutes les questions de diversité et d'accueil dans la région. Alors, ce sont des activités gratuites. Je vous invite grandement à aller voir le site de la MRC pour voir un peu quelles sont les activités, où est-ce que ça se déroule. Ça risque d'être très intéressant jusqu'à la fin du mois de juin. Écoutez, le gouvernement du Québec se dit préoccupé par l'avenir de la langue française au Québec. Notre député Jean-Bernard Raymond et son collègue de Saint-Jean, Louis Lemieux, vont être avec nous pour nous présenter une consultation à laquelle le gouvernement nous invite, chacune et chacun d'entre nous, à participer. Alors, ce sera intéressant pendant notre heure de rencontre de voir un peu ce qui motive le gouvernement, quelle est la lecture de la situation, pourquoi il nous invite à cette consultation-là. On regarde ça ensemble dès le retour de la pause publicitaire.
Développement économique Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Lorsque l'on parle de droit en matière de santé et de services sociaux, le comité des usagers de Pierre de Sorel veille sur nous. Sa mission, nous renseigner quant à nos droits et nos obligations tout en défendant nos intérêts. Saviez-vous que, pour susciter notre confiance face au système de santé, la loi prévoit 12 droits tels que le droit à l'hébergement, de recevoir des services en anglais, d'avoir accès à son dossier et à la confidentialité de celui-ci ou encore de porter plainte? Le comité des usagers Pierre de Sorel nous permet d'exprimer nos insatisfactions. Pour plus d'informations, composez le 450-746-6008. Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Parce qu'en perçant dans le mur, t'as aussi fait un trou dans le chauffe-eau. Parce que des grêlons de la taille d'une balle de baseball ont passé ta maison au bat, il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience. Parce que ton arbre que 100 ans a pris 2 secondes pour tomber sur ta maison. Parce qu'un voleur contorsionniste s'est introduit par la petite fenêtre du sous-sol. Il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience.
Cette première est une présentation de Lucier. Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud. De retour à Tête Première avec Denis Marion.
Alors, on est de retour. Je vous l'ai dit, j'ai deux invités pour la prochaine demi-heure. Jean-Bernard Raymond, que vous connaissez bien parce qu'il est le député de Richelieu depuis 2018. Et j'accueille également Louis Lemieux, qui est député de Saint-Jean, aussi en Montérégie, de l'autre bout, à l'autre bout de la rivière Richelieu. Et il est adjoint parlementaire du ministre responsable de la langue française. Louis Lemieux, vous l'avez connu aussi comme journaliste. On se rappelle de lui, entre autres, à Radio-Canada. Je vois les images, Monsieur Lemieux, de l'époque. Merci d'être avec nous tous les deux et de participer à l'émission. Jean-Bernard, tu nous as offert d'avoir une conversation sur et de recevoir ton collègue de Saint-Jean pour parler de cette consultation dans laquelle le gouvernement à laquelle le gouvernement nous invite à répondre, à participer. C'est le ministre Auberge, le ministre responsable de la langue française, qui s'occupe de ce dossier-là. Ça semble important pour toi. Pourquoi?
Ben d'abord, bonjour Denis, puis merci de nous recevoir, mon collègue Louis et moi, à votre émission. Puis oui, c'est un incontournable de venir en discuter avec vous ce midi, parce que, puis tu l'as dit un peu dans ton introduction que j'écoutais, là, voilà à peine quelques minutes, la situation du français au Québec, on va se dire, est quand même préoccupante. Hein? Les statistiques sont sans équivoque. Notre langue, notre belle langue, perd du terrain. Là. Denis, au cours des 20 dernières années, le français a connu des reculs plus importants que dans l'ensemble du siècle précédent. Alors donc, je pense que le gouvernement doit agir de façon responsable, en prendre acte et poser des gestes qui sont importants. Et c'est ce qu'on a fait depuis notre arrivée en poste en 2018. Moi, je sais que nos citoyens et citoyennes de la région ici, dans Richelieu, sont des amoureux de la langue, désirent la préserver, désirent la défendre. Alors, ben merci beaucoup de l'invitation afin de leur permettre aujourd'hui là ce qu'on vient discuter avec vous. Et puis, je suis heureux de le faire avec le collègue Louis, celui que j'appelle affectueusement Monsieur Louis, mon ami, que j'ai appris à connaître. Et comme tous les Québécois, hein, puis les Québécoises, tu l'as dit, on a appris à connaître Louis. Et il était apprécié de la population dans son passage remarqué dans les médias. Radio-Canada, RDI, entre autres, moi que j'écoutais Louis le week-end. Et Louis, mon collègue, député de Saint-Jean, est l'adjoint parlementaire, comme tu l'as dit, du ministre responsable. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Denis, pour comme gouvernement, pour prendre acte du déclin de la langue française? Louis va vous en parler plus en détail, mais le ministre a mis sur place un groupe d'action pour l'avenir de la langue française, un genre de comité interministériel, donc qui démontre le sérieux que le gouvernement prend pour défendre notre belle langue française. Et il va avoir un plan d'action gouvernemental qui sera déposé au plus tard à l'automne. Bon. Mais préalablement à ça, je pense que c'est important de consulter les gens. Alors moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour inviter les citoyens de notre belle région à participer à une consultation qui leur est offerte, une consultation publique en ligne. Alors donc, ils ont une voix, ils vont pouvoir se permettre de participer en ligne à cette consultation, puis proposer, identifier les actions qu'ils croient importantes à mettre en place en matière de protection et de promotion ou valorisation de la langue française.
Jean-Bernard, est-ce que les gens t'en parlent? Est-ce que les gens t'ont dit, on sait qu'il y a cette consultation-là, c'est important pour nous? Est-ce que tu t'en es fait parler?
Ben, en fait, un peu. Et pas autant qu'on le souhaiterait. Alors, c'est pour ça qu'on vient propager la bonne nouvelle aujourd'hui. Mais, tu sais, je disais d'entrée de jeu que les citoyens de la région aiment la langue française et sont préoccupés. Ça, j'en entends beaucoup parler dans mes rencontres sur le terrain avec les citoyens ou par des correspondances par courriel. Tu sais, par exemple, Denis, à chaque fois qu'il y a une statistique qui sort qui dit que la proportion des personnes qui résident au Québec et qui ont comme langue maternelle est passée de 77% à 74% en 5 ans à peine, tu sais, on voit une tendance qui est inquiétante. Les gens voient ces statistiques et se demandent comment leur gouvernement va agir.
Ben justement, allons vers ton collègue Jean-Bernard, on va aller vers Louis Lemieux. D'abord, très heureux de vous accueillir. Cette consultation-là se place dans quel contexte actuellement? Jean-Bernard a évoqué un certain nombre de chiffres, là, mais quelle lecture au gouvernement on fait de la situation actuelle?
Merci beaucoup de l'invitation, M. Marion. Salutations à mon collègue Jean-Bernard, qui est probablement un des collègues avec lequel je suis le plus complice à l'Assemblée nationale pour toutes sortes de raisons. On n'en fera pas la liste, je vais. Mais entre autres, parce que on a travaillé tous les deux abondamment, presque du début à la fin, sur le PL 96, la fameuse loi 96, qui venait mettre à niveau la charte de la langue française qui avait déjà 45 ans. Puis quand je parle de mise à niveau, là, on pourrait presque parler d'une mise aux normes. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui avait été fait depuis 45 ans, et puis là, il était temps d'y venir. Mais vous avez dit au début, M. Marion, qu'on était préoccupé. Bien, moi, je suis plus que préoccupé, je suis catastrophé, en tout cas, je suis consterné par les chiffres du dernier recensement qui sont arrivés. Il faut se le mettre dans la tête, dans le calendrier. Là. Les chiffres du recensement ont été disponibles au début de l'automne, et on avait adopté la loi 96 au mois de juin. La loi 96, c'est bien, ça va faire ce qu'on veut que ça fasse, c'est un outil. Mais ce qu'on veut que ça fasse maintenant, ça prend, comme vous le dites, dans le nouveau contexte de ces nouveaux chiffres-là, qui sont, pour moi en tout cas, presque catastrophants, hein, ça nous pousse à ce que le ministre puis le premier ministre ont appelé un réveil. C'est-à-dire que, tu sais, on va en parler là, pendant 20 minutes, là, mais au final, c'est pas le gouvernement qui va faire ça, là. Le gouvernement va déployer des moyens, des outils, des mesures, va dépenser de l'argent pour essayer d'aider les Québécois et les Québécoises à véritablement faire du français leur langue officielle et commune. Et le « commune », là, oui, c'est un petit mot bien simple, mais qui fait une énorme différence. Donc, c'est dans ce contexte-là de ce qu'on est en train de considérer comme une... C'est pas une dernière chance, là, ça, parce que j'ai beau parler de catastrophe, il faut pas non plus être si pessimiste que ça. Mais on est à une croisée des chemins fondamentales, je pense, à cause de la démographie, à cause du numérique, à cause, puis on va en parler parce que tous ces facteurs-là font finalement partie de l'histoire. Mais dans ce contexte-là, le gouvernement est en train de préparer un plan d'action, comme le disait Jubé. Puis là, l'important pour nous, c'est pas de le faire en vase clos, pas de le faire en disant « Bon, on connaît les solutions, on en a parlé assez longtemps, là, on va pouvoir mettre en application certaines choses. » Non, non, on veut voir ce que les citoyens pensent. Et ce que les citoyens priorisent aussi, M. Marion, parce que c'est ça le but de l'exercice de la consultation. C'est de sentir jusqu'à quel point les citoyens québécois, quand ils vont répondre à la consultation, qui soit dit en passant, prend 5 minutes, là, de nous donner leur vision du problème.
Pour présenter à nos auditeurs un peu de quoi il s'agit là, dans la consultation, on peut voir que, d'abord pour commencer, c'est extrêmement facile de s'y rendre là, par Google. Là. On pourrait donner l'adresse éventuellement à M. Lemieux, mais c'est pas très long à répondre, effectivement. Mais vous abordez dans le questionnaire plusieurs aspects de la langue. Vous parlez de la langue du travail, vous parlez de culture, vous parlez d'éducation, d'enseignement supérieur, vous parlez évidemment d'immigration, intégration, francisation, vous parlez de la place de la francophonie pour les priorités, mais est-ce que vous avez l'impression que la façon dont vous posez les questions vont vous permettre effectivement d'identifier ce qui sera important pour la population et à quoi vous attendez-vous comme réponse? Qu'est-ce qui vous satisferait comme réponse de la population?
Bon, d'abord, c'est vrai que c'est un choix de réponse, mais c'est pas que ça. Il y a des boîtes de commentaires, puis là, les citoyens peuvent se vider le cœur ou en tout cas peuvent y aller de leur imagination la plus fertile. Il y a aussi, en parallèle ou en marge de cette consultation citoyenne, il y a plein de choses là. Moi, j'ai assisté à des tables sectorielles avec des experts, des professeurs, des spécialistes qui sont venus répondre à nos questions et nous donner la dernière vision, tour d'horizon qu'ils avaient de la chose. Les ministres, quand je dis qu'ils travaillent, là, ils sont pas juste en train de se demander ce qu'ils vont faire. Ils sont en train de mettre en commun toutes les ressources de tous les ministères concernés autour de la table pour avoir un impact plus fort. Mais pour en revenir à l'essence de votre question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne aux citoyens... En fait, je vais vous dire un secret. Monsieur Marion, on peut dire ça entre nous. Là, tout
oui,
ça,
personne nous écoute d'abord, oui, c'est ça.
C'est ça. La consultation a un double mandat. Le premier mandat, c'est d'aller recueillir l'opinion, mais en allant recueillir l'opinion, ce qu'on va chercher, c'est une validation de ce qu'on sait qu'on va faire. Quand vous allez remplir le questionnaire, vous allez voir, c'est assez clair, on dit, préférez-vous ci, ça, dans quelle mesure, puis on fait une ordonnance des choix de réponse en disant le plus important pour vous dans ces 4 ou 5 affaires-là qu'on pourrait faire, c'est laquelle. Ça, c'est important parce que ce qu'on va chercher au final, puis c'est ce qu'on va continuer de faire jusqu'à ce qu'on dépose le plan d'action à l'automne, c'est l'adhésion des gens. Tu sais, si Denis Marion nous répond, moi je pense que le plus important, c'est que le gouvernement du Québec fasse ça. Si nous, on s'en allait vers là, mais que là, il y a la moitié du monde qui nous répond, qui nous dit ça, c'est le plus important pour nous. On va s'organiser pour donner un certain nombre des choses qu'on planifie déjà, les donner en sachant que les gens vont adhérer à ça. Parce que je vous l'ai dit, puis je vous le répète, le gouvernement ne fera pas ça tout seul. Le gouvernement ne peut pas, entre guillemets, sauver la langue française si les gens ne veulent pas parler français, ne veulent pas consommer du français dans la culture et dans le reste. Donc, au final, c'est autant une dimension qu'une démarche d'adhésion, de compréhension, de sensibilisation. Dans le fond, là, c'est comme le faucon, mais pendant 30 semaines au lieu d'être pendant 30 secondes. Mais ce ne sera pas une campagne mais faucon. Le faucon, c'était un électrochoc.
Mais je comprends aussi, puis ça, je trouve ça très intéressant, je pense que les gens ont intérêt à comprendre, c'est que parallèlement à cette consultation qui s'adresse à chacune et chacun d'entre nous comme citoyens, vous avez aussi procédé à des consultations avec des milieux, j'oserais dire, d'expertise, là, des gens qui peuvent vous donner des avis qui vont vous aider à prendre des décisions. De façon générale, il y a une bonne participation à ces consultations-là. Les gens sont intéressés par ce dossier-là de l'avenir de la langue française.
Ben, les gens qui étaient déjà mobilisés, ils sont au rendez-vous. Là. Tu sais, la Société Saint-Jean-Baptiste, ils n'ont pas attendu qu'on les appelle pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Il y a plein de monde qui sont dans le milieu. Mais l'idée de la consultation citoyenne, c'était justement de sortir des sentiers battus de ce qu'on a entendu tout le temps pour être certain que le grand public, les citoyens, soient conscients de ce qui sera sur la table et de la priorité qu'on va donner à ça. Mais effectivement, moi, j'ai été immensément impressionné par les tables sectorielles auxquelles j'ai assisté au nom du ministre pour entendre les experts en démographie, en francisation, les experts de tous ordres là, qui sont venus nous dire, ben, vous savez, il y a 10 ans, c'était comme ça, il y a 5 ans, c'était comme ça, puis là, avec les nouveaux chiffres qu'on a, puis encore hier, j'ai reçu de spécialistes hier, d'abord j'ai reçu un mémoire, parce que tout le monde peut écrire un mémoire, là, tu sais. Moi, je vous dis, prenez 5, 10, 15 minutes, si vous avez des commentaires, pour venir en ligne, puis nous communiquer votre opinion. Mais si vous voulez écrire 15 pages, on est preneurs, là. On va prendre tous les mémoires qui vont être déposés, et les résultats des tables sectorielles, on avait des gens qui écoutaient ça pour nous résumer ça, pour nous ramener ça dans une forme qu'on est capable d'utiliser.
Écoutez, mais
tout le monde... Oui.
Je m'excuse, je vous interroge, je ne devrais pas faire ça, des affaires de même. On doit aller à une petite pause publicitaire, mais je trouve ça très intéressant le fait que vous abordez dans le questionnaire au moins 2 aspects des enjeux linguistiques, là, le français comme langue commune, puis donc l'espace public, le français dans l'espace public, puis la qualité de la langue. Vous y allez sur les 2 aspects. Si vous êtes d'accord, on va poursuivre notre conversation après la pause sur ces aspects-là.
Avec
en
plaisir.
Hiver comme en été, avoir un bon système de climatisation
Désolé
de chauffage,
pour le...
c'est la clé du confort à la maison. Climatisation Jimmy Chassé fait la vente, l'installation et la réparation de systèmes murales, de systèmes de climatisation centrale, d'air climatisé et de thermopompes. En exclusivité régionale, nous avons pour vous les produits Daikin, les meilleurs thermopompes au monde. À votre service depuis plus de 13 ans, Climatisation Jimmy Chassé, au 4210 Route Marie-Victorin et au 450-855-1776. Psst, reste à l'affût. Ce printemps, nous serons vous surprendre.
Toi, là, dans la vie, as-tu confiance en toi? Vraiment? Eh bien, prouve-le! À tous les jours, 8h10, dans Yat-Sé Matin, Alex Trudel va te poser 5 questions et tu auras 30 secondes, pas une de plus, pour répondre correctement à chacune d'elles. Avec 5 bonnes réponses, tu pourrais gagner notre prix vedette la semaine. Ça va ressembler à quoi, ces questions-là?
10 plus 4 plus 3 égale? Je chante bye-bye, mon cowboy. Quel est mon nom? Je suis Sidney Crosby. Quel est mon numéro de chandail?
As-tu confiance en toi? À tous les jours, 8h10, dans Yat-Sé Matin, à CGS.
La Caisse des Jardins Pierre de Sorel présente chaque vendredi à 6h45 la chronique de l'Association étudiante du Cégep de Sorel-Tracy. Apprenez-en plus sur les activités du Cégep, sur les rencontres sportives, sur les programmes offerts ou sur les différentes rencontres étudiantes. Vivante et dynamique, l'Association étudiante du Cégep de Sorel-Tracy s'exprime sur les ondes CJSO. Soyez du rendez-vous tous les vendredis, une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel.
Parce que le monsieur dans le stationnement qui reculait pensait plus à son chat qu'à toi. Parce qu'un ovni est tombé directement sur ta voiture, il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience. Parce que ton ado dans la voiture a confondu le D puis le R de l'embrayage. Parce qu'un gorille géant a décidé de jouer aux petites autos avec la tienne. Il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience.
Cette première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête Première avec Denis Marion.
Alors, je suis de retour, mais je suis de retour avec mes invités, Jean-Bernard Aymon, notre député, député de Richelieu, et Louis Lemieux, député de Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre responsable de la langue française, M. Roberge. Je le disais avant la pause, dans le questionnaire, on aborde deux aspects différents de ce qu'on peut discuter quand on parle de langue française. Tout l'aspect de la langue commune. Et est-ce que c'est pas ça, M. Lemieux, qui fait la distinction du Québec, le fait que le français soit justement, et qu'on vise à faire en sorte que le français soit la langue commune de tous les Québécois, la langue de l'espace public, la langue du travail, la langue de l'éducation, la langue du commerce? Est-ce que c'est pas notre spécificité et la valeur de la place du français dans notre société?
Moi, je trouve que c'est la grande affaire que Simon-Jolin Barrette, le père de la loi 96, a trouvée pour nous inclure tous dans une démarche de nation, dans une démarche de société, parce que c'est un défi de société. Évidemment, si vous m'aviez dit en commençant l'entrevue, « Ouais, mais monsieur Lemieux, le français, là, pas si pire que ça, là, tu sais, les jeunes parlent un peu en anglais, puis ils me répondent des fois en anglais au magasin, mais c'est pas si pire que ça. » Là, on aurait pu partir d'ailleurs pour se rendre là où on est en train de jaser. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent ça. Et ils ont raison de le penser quand ils vivent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand ils vivent dans d'autres régions du Québec où les chefs, juste chez nous, je suis seulement à 35 kilomètres de Montréal, et à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis dans le Haut-Richelieu, on est à 94 au lieu de 96%, je pense, là pour les indicateurs du français parlé en société. Bon. On a perdu 2 points. Eh, regarde, c'est pas si grave que ça. Ben, je m'excuse, mais ces 2 points-là, c'était 3 fois plus que dans le recensement précédent en termes de différence proportionnée. Donc, à quelque part, on s'en aperçoit pas nécessairement chez nous, mais on peut-tu s'entendre que quand on va à Montréal ou quand on regarde ce qui se passe à Montréal, on peut comprendre ces chiffres qui sont très, très préoccupants qu'on a reçus dans le dernier recensement. Et le but du gouvernement, c'est de dire, OK, là, on a une loi 96 qui est vraiment une belle loi, dans le sens que les outils sont là. Elle est même pas en œuvre encore. C'est le 1er juin que l'essentiel, pas l'essentiel, mais une grosse partie de la loi 96 va rentrer en vigueur, puis après ça, il va y en avoir encore pour 2 ans. Donc, c'est pas parce qu'on s'est pas dit, quand on a reçu le recensement, zut, on a manqué notre coup avec la loi 96. Pas du tout. Les outils sont là. C'est la façon dont on va les utiliser, puis qu'on va donner aux Québécois la chance de c'est pas juste de freiner le déclin, hein. On s'entend-tu, M. Marion, que si on freine le déclin, on décline encore, là. Hein? Fait qu'il faut.
C'est comme l'inflation, ça, finalement.
Pas juste le freiner. C'est ça. Il faut renverser la tendance. Et ça, on ne fera pas ça du jour au lendemain, parce qu'il y a des gens qui doivent prendre conscience.
Vous donnez comme chiffre de référence, souvent, le français parlé à la maison. Puis là, je ne vous cacherai pas, j'ai un petit malaise par rapport à l'utilisation de cette donnée-là, parce que, de façon générale, on sait que pour des gens qui se joignent à nous de l'étranger, ça peut prendre 1, 2 ou 3 générations pour que le français devienne vraiment la langue quotidienne. Est-ce que le fait d'accueillir de nouveaux arrivants, des immigrants, est-ce que notre objectif ne devrait pas justement de les amener à bien maîtriser le français pour l'espace commun en acceptant que des petits-enfants parlent à leur grand-mère dans leur langue d'origine?
Si j'étais près de vous plutôt que dans mon bureau du Parlement, je vous donnerais une tape dans le dos puis je dirais en plein ça, parce que c'est un indicateur. Puis un des problèmes qu'on a, puis je ne parlerai même pas du fait que le recensement auquel vous avez participé, comme tous les Canadiens, là, c'est de l'autodéclaration. Tu sais, quand on remplit le recensement, « Hey, on parle-tu en français ici? Oui, c'est beau, on est tout ça. » On autodéclare ce qu'on fait. Il y a quand même une loi statistique qui dit que c'est relativement juste comme lecture qu'on peut en faire, mais ça reste juste une statistique. Puis des statistiques, là, il y a un démographe récemment qui m'a dit, « Tu sais, Louis, des anecdotes c'est juste un gros paquet de statistiques. Alors, on peut se fier aux deux, dans la mesure où ça vient incarner des chiffres. Mais vous avez raison, la langue parlée à la maison, c'est un indicateur parmi d'autres. C'est sûr que la langue au travail, ça commence à être un petit peu plus, oui. un petit peu plus difficile aussi, là, quand on regarde les chiffres, mais il va y en avoir d'autres. Une des choses qu'on va faire avec c'est pas un effort, on appelle ça le plan d'action, mais je trouve que plan d'action, ça fait fonctionnaire, là, chantier aussi, mais en tout cas, une des choses qu'on va faire en déposant les intentions puis la vision du gouvernement à l'automne, quand M. Roberge va déposer ça avec les autres ministres, une des choses qu'il va y avoir là-dedans, parce qu'on l'a déjà dit, c'est pas un secret, là, c'est le moyen d'aller chercher d'autres données. Parce que les démographes, ils sont condamnés
aux données officielles.
Il n'y a pas grand-chose d'autre, c'est ça. Mais on ne peut pas attendre nos 5 ans pour dire « Ouh, ça a encore baissé ». Non, on ne peut pas. Il faut qu'on prenne les choses en main. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu des chiffres où on est encore en train d'analyser, puis j'ai 5 pages de tableau, là. C'est les mêmes chiffres que dans le recensement, mais on peut décortiquer ça de plein de façons. Quelqu'un qui aime ça, Excel, il peut jouer beaucoup avec ces chiffres-là. Montréal, les régions, le Québec, l'âge, les groupes d'âge, les groupes, la provenance des immigrants, tout ça. Donc, on est encore, après plusieurs mois, à décortiquer ce que ça veut dire, ces chiffres-là, au-delà de dire « Oh, c'est pas des bonnes nouvelles ». Ça nous prend d'autres études. Ça fait partie, ça coûte cher, on va se dire, mais en même temps, ça fait partie des objectifs du gouvernement pour être capable de dire aux Québécois, voyez, ça progresse, ou attention, ça avance pas, mais on saura où on se rend et on sera capable de prendre les mesures nécessaires pour arriver là où on veut aller, si tant est qu'on veut la renverser, cette tendance-là. C'est la
conviction
de celui qui vous parle. Oui, Jean-Bernard.
J'interviens dans le débat, parce que tu as tellement raison, parce que les chiffres qu'on évoque, ce sont des chiffres du recensement du gouvernement du Canada, et tu le dis avec une auto-déclaration. Donc, puis c'est préoccupant. Est-ce qu'on peut penser que c'est pire que ça? Je veux pas faire on n'a pas de boule de cristal, et c'est pour ça que dans le dernier budget de notre collègue Éric Girard, il y a des sommes de prévues pour se doter d'indicateurs gouvernementaux ici au Québec sur la situation linguistique, puis réaliser des suivis annuels pour de caractéristiques linguistiques de la population. Alors, tu sais, c'est notre collègue Christian à la santé dit toujours les données, c'est de l'or, Monsieur Dubé, ouais. Alors, si on peut faire la même chose avec la langue, avec le déploiement de l'utilisation de la langue française, ça va nous permettre d'être plus agile avec des données annualisées et qui vont correspondre plus à ce qu'on a de besoin, là.
Je crois profondément aux données, je crois profondément au fait qu'on a besoin de bien comprendre ce que les chiffres veulent dire, mais la politique, c'est aussi une question de perception. Vous avez dû vous faire poser la question, Louis Lemieux. En quoi est-ce que le fait de parler du français comme langue en déclin, ça peut être stimulant pour des jeunes ou des immigrants qui rentrent dans la société actuellement?
J'en ai tellement entendu parler parce que dans ces tables sectorielles, on avait des spécialistes de toutes sortes puis qui nous disaient « Attention, quand vous êtes en train de dire que ça va mal, vous ne donnez pas le goût aux jeunes de changer leurs attitudes ». Mais en même temps, on n'est pas certain, tu sais, je veux dire, le faucon, là, on va se dire, le faucon, c'est un électrochoc, là, c'est un exemple. Est-ce que les jeunes parlent comme ça? Je pense pas. Est-ce qu'ils sont capables de parler comme ça entre eux? Sûrement, là, ça c'est clair, je l'entends. Mais je pense pas. Là, on rentre dans la langue qu'on enseigne et les exigences qu'on a. Tu sais, autour de la table, là, il n'y a pas juste M. Roberge, il y a le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur. Eux autres ne sont pas là juste pour dire « c'est une bonne idée, mon Jean-François, vas-y, là ». Non, eux autres sont là pour recadrer à l'intérieur de leur ministère l'action que le gouvernement va décider par rapport aux Français. Moi, je suis certain que, même si M. Drainville a plein d'autres chats à fouetter en ce moment, là, je suis certain que l'enseignement du français, c'est important. Mais il faut que je dise 2 choses, parce que je vois que le temps file. La première, c'est que votre question, tantôt, vous aviez raison. Je suis de ceux, moi, qui pense que la langue parlée à la maison, il ne faut pas s'en faire un drame. C'est parce que c'est un des 2 seuls indicateurs qu'on avait, voilà, encore à peine quelques années. L'autre affaire, c'est que les jeunes et tous ceux qui sont un peu pas encore d'avis qu'il y a un problème, que ce n'est pas un problème. Ça peut continuer comme ça, puis un jour, on verra si c'est pire que ça. même les Français. Moi, j'étais avec des sénateurs français en délégation hier au Parlement, puis avant-hier. On a passé une des deux journées à parler de français parce que c'était ça. Et bon, ils m'ont dit ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire on ne protège pas assez notre français en France, on n'y fait pas assez attention, on n'est pas assez conscient de ce qu'il y a là-dedans. Et quand on leur a dit ce qu'on faisait, ils ont dit, ben, on ne serait jamais capable de faire ça parce que les gens chez nous n'ont pas l'impression que c'est nécessaire. Moi, je pense qu'on est rendu au point où il faut que les Québécois prennent acte de la situation et se disent, on ne peut pas attendre plus longtemps. Puis de toute façon, ça fera pas mal à personne. La langue commune, tu sais, ça n'enlève rien à personne. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. On n'est pas en train de se déchirer les chemises. On a le droit de travailler en français, on a le droit de vivre en français, on a le droit d'être servi en français. La loi 96, le débat, il est déjà fait, là. On l'a fait l'année passée. Là, on va l'appliquer. Là, il s'agit de savoir maintenant les priorités.
Cette loi-là, elle est évidemment l'héritière de la loi 101, 1977.
Oui, à l'époque, fait, elle a remis à jour.
Oui, oui, tout à fait. C'est Mais à l'époque, on avait aussi, au Québec, décidé d'investir de façon importante dans l'accueil des immigrants avec les COFI, là, les centres d'orientation et de francisation des immigrants. Cette expérience-là a été marquante, extrêmement importante, très valorisée un peu partout à travers la planète parce qu'on ne faisait pas qu'enseigner le français pour leur permettre de le comprendre, mais on accueillait ces gens qui arrivaient d'ailleurs pour que ce soit plus facile de s'intégrer dans la société québécoise. Est-ce que vous ne croyez pas que, compte tenu des seuils d'immigration actuels, on aurait intérêt à revenir à des institutions de ce type-là, surtout si le gouvernement continue à le faire, et je pense que c'est une bonne chose, de favoriser la régionalisation de l'immigration, c'est-à-dire on est invité partout à travers le Québec actuellement à accueillir de nouveaux arrivants.
Mais on a encore beaucoup de chemin à faire sur la régionalisation, mais on en a fait énormément sur la capacité d'accueillir des immigrants qui parlent déjà français. Les francophones, et on l'a dit, c'est pas une cachette, là, c'était encore dans les journaux ce matin, on veut avoir le maximum, presque 100% d'immigration qui serait francophone. Mais attention, ça, c'est ceux qu'on contrôle. Mais les COFI, vous avez raison, à l'époque, c'était parfait. On est rendu en 2023. Fait que ça va prendre quelle forme? Bien, ça va prendre la forme de la francisation à distance. Avant de s'en venir, on va être capable déjà de travailler avec
Donc, il y a des options, là. Vous regardez déjà options, là.
Puis, on est déjà en train d'intégrer ça. Le 1er juin prochain, là, c'est comme demain, il va y avoir un guichet unique pour la francisation au Québec. C'est le MIFI qui fait l'intégration et la francisation. Et ça va pas tout changer, mais ça nous donne les moyens de nos ambitions pour être certain de franciser les gens qui travaillent de soir, qui travaillent de nuit, qui travaillent de jour, qui travaillent la fin de semaine, les franciser au travail, les franciser dans des centres communautaires. Ça va ressembler au COFI à certains égards, mais d'autres fois, ça va... Mais à cause des moyens technologiques dont on dispose, puis à cause de la capacité des gens, parce que ceux qui s'en viennent vont avoir un meilleur degré de français, donc on va pouvoir aller plus vite, plus loin. Puis ceux qu'on contrôle pas, la réunification familiale, par exemple, bien là, c'est là où il faut déployer tous nos atours.
Ce sont les grands défis de l'immigration depuis longtemps. Là. Vous êtes confrontés à des défis qui sont persistants, là, évidemment, comme de raison. Écoutez, messieurs, malheureusement, on arrive à la fin du temps que nous avions pour échanger là-dessus. Je vous cacherai pas que moi, c'est des sujets que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir l'occasion d'entendre ce qu'il y a derrière l'actualité, là, d'aller un petit peu plus loin. Enfin, je vous remercie d'avoir participé tous les deux. Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu, Louis Lemieux, député de Saint-Jean, adjoint parlementaire du ministre responsable de la langue française. Puis je soupçonne, M. Lemieux, que vous voulez nous rappeler qu'il faut participer à la consultation.
Vous lisez dans mes pensées, M. Marion. C'est facile. Vous allez sur Google, consultation, langue française, Québec, ça va sortir. Là, vous avez un petit 5 minutes de choix de réponse puis des petites boîtes de commentaires pour donner votre opinion. Puis si vous voulez pondre un 25 pages de mémoire, on va le recevoir et le lire avec intérêt. Et vous avez un peu plus de temps pour le mémoire.
Je vous remercie tous les deux. On revient après la pause. On sera avec Sylvain Rochon pour regarder les questions à discuter.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site Web.
qui m'est arrivé. Imagine-toi donc, je suis allée voir mon médecin, il décide de tout sans me consulter. A-t-il le droit de faire ça?
La loi vous donne le droit de participer à toute décision vous affectant. Pour en savoir plus sur vos droits ou déposer une plainte, contactez le comité des usagers Pierre de Sorel au 746-6008, poste 8209 ou écrivez-nous à info@usagerpds.ca.
Les 20 hits de la semaine au décompte Top 20.
Salut, ici Bob Péloquin. Voici le numéro 1 cette semaine.
J'ai pas envie de rien d'autre que toi. Je pense à nos lendemains et de plus en plus je nous vois. Dans ce monde incertain, il faut notre loi. Comme ça, sur nos chemins, on gardera la foi.
Vendredi soir, 19h, en rappel le samedi, 14h, à CJSO 101.7, au rythme de la région.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, de chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Larion.
Alors, je vous le disais avant la pause, j'ai invité Sylvain Rochon, qui est notre journaliste ici à CJSO, qui est l'animateur de la Tribune le mardi midi, que vous entendez aux nouvelles, que vous entendez l'après-midi. Sylvain, merci d'abord d'avoir accepté de faire du temps supplémentaire avec moi.
Ça m'a fait plaisir, Denis, ça me fait plaisir.
Alors, t'as entendu ce que nos invités ont dit.
Ouais.
Ma première question, c'est est-ce que tu vois une différence dans la façon dont on traite les enjeux de la langue, est-ce que ça a changé à travers le temps?
Bien, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de fondamental qui évacue la Coalition Avenir Québec de la discussion qu'elle souhaite avoir sur la langue française, c'est le statut du Québec, province du Canada. Moi, je trouve que c'est déterminant. Et incidemment, c'est une question, celle du statut constitutionnel du Québec, qui a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé François Legault, dont l'ardeur, souviens-toi, Denis, fatiguait même certains péquistes à l'époque où il appartenait au Parti québécois. Puis, je vais y aller brièvement là, sur le statut du Québec, province du Canada, question, à mon sens, à moi, déterminante en matière linguistique. Le ministère de la langue française, dont est titulaire Jean-François Roberge, est chargé de veiller, et je cite, c'est pas moi là, c'est une citation, est chargé de veiller à la promotion, à la valorisation et à la protection de la langue française et de son statut au Québec en tant que seule langue officielle de la province. Je répète ces derniers mots là. Encore une fois, ce ne sont pas les miens, là, ce n'est pas mon invention, en tant que seule langue officielle de la province. Or, il y a, à l'intérieur du pays auquel on a, en 1980, puis plus tard, en 1995, décidé de continuer d'appartenir, deux langues officielles, l'anglais et le français. Quelle incroyable confusion pour qui arrive d'ailleurs dans le monde s'installer ici. Moi, je trouve qu'on n'a que nous à blâmer pour la décision de nombre de ces néo-Québécois de choisir l'anglais. On a une identité complètement tordue. Puis là, je vais te faire rire un peu.
On
m'a essayé. Je vais ajouter du léger à cette émission. Je vais te faire entendre la démonstration cinématographique que notre identité est tordue.
Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français... Canadien français.
Ah bon?
Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien.
Ah, c'est certain.
Un Québécois d'expression canadienne française française. On est des Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord.
Oui,
des franco-québécois
On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens.
Les deux. Ouais.
C'est ça.
Tricheur. Alors, tricheur, c'est la Rochon. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui a reconnu, qui a reconnu l'extrait. Là,
Elvis Gratton. Puis la vision là, du colonisé incarné par Elvis Gratton dans encore plus dans Think Big Stee. Tu te souviens de Think Big Stee? Qui adopte là, les mœurs du dominant. C'est encore très, très présent au Québec. Je pense que c'est là encore plus, peut-être plus que jamais. La chanson américaine, c'est donc meilleur. Les films américains, oh, c'est donc meilleur. La proposition, ils l'ont tué l'affaire, les Américains du personnage. Là. C'est beaucoup, beaucoup de Québécois. C'est quoi le Jim Fest cette année, Denis? Je te le donne en mille.
Oui, je sais.
C'est big! Le jib, c'est big. Il manque juste T à la fin, puis on est dans Elvis Gratton.
Sylvain, tu m'amènes à un endroit là, qui est important. Puis je pense qu'il faut qu'on l'aborde. Au Québec, on ne peut pas parler de la langue sans parler d'identité. Dans la majorité des pays du monde, la langue, c'est quelque chose qui est utilisé pour communiquer. Mm-hmm. On s'en est déjà parlé. Moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup en Inde, en particulier. Les Indiens parlent, la très grande majorité des Indiens, et ils sont nombreux, les Indiens, hein, c'est le pays le plus populé au monde depuis cette semaine, ils parlent généralement 4, 5 et 6 langues. Je me souviendrai toujours d'avoir demandé à un chauffeur de taxi, « Voulez-vous bien me dire pourquoi vous parlez autant de langues? » Puis qu'il me répond, « Comment voulez-vous que je parle à mes amis autrement? » Et donc, la langue n'est pas une question d'identité, elle est une question de communication.
Alors qu'ici, elle nous identifie
alors
la langue commune.
Alors qu'ici, inévitablement.
Là, c'est notre tronc commun.
Exactement,
là.
Mais est-ce que ça ne fausse pas le débat à ce moment-là? Est-ce que justement, quand on parle de l'avenir de la langue française, est-ce qu'on ne se retrouve pas, comme tu viens de le faire dans une certaine mesure, à aborder des questions qui sont beaucoup plus larges que la question de la langue elle-même?
Bien, moi, je pense qu'il faut les aborder, ces questions-là, et le questionnaire du gouvernement de François Legault les évite systématiquement. Je te donne un autre exemple. Aux questions qu'on retrouve dans la consultation du gouvernement pour alimenter la réflexion sur la langue, il en manque une dans le volet « culture ». Estimez-vous, j'ajouterais celle-là, estimez-vous que le gouvernement du Québec devrait posséder les pouvoirs exclusifs en matière de radiodiffusion et de télécommunications?
Qui sont de compétences fédérales.
Mais oui, est-ce que ce ne serait pas plus favorable que nos stations de radio et de télévision soient régies par un CRTQ plutôt qu'un CRTC, par un conseil de la radiodiffusion et des télécommunications québécois qui ne songeraient pas à réduire les quotas de chansons françaises,
donc,
mais plutôt à accroître le contenu.
Donc, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est jusqu'où le gouvernement du Québec actuel, parce que c'est du gouvernement du Québec dont on parle, le gouvernement du Québec qui prend les décisions actuellement, jusqu'où doit-il aller pour que nous ayons, puis je pense que Louis Lemieux l'a dit ça là-dessus, il y a des décisions qui appartiennent au gouvernement. Le gouvernement ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il y a des affaires qu'il ne contrôle pas. Là. Il y a des décisions qui appartiennent au gouvernement, il y a des décisions qui nous appartiennent à nous aussi, chacune et chacun d'entre nous qui vivons au Québec. Est-ce qu'on n'a pas, intérêt à bien comprendre ce qui peut être fait? Et moi, je suis toujours au même point à un moment donné quand on parle du gouvernement. On a besoin de leadership. On a besoin, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va, il faut que quelqu'un, quelque part, puis c'est généralement le rôle du gouvernement de nous dire, écoutez, nous, on vous suggère d'aller dans cette direction-là. Est-ce qu'on est en train de faire ça actuellement?
Regarde, deux autres questions évacuées. Là. J'aurais aimé connaître l'opinion des Québécois. Ça aurait été drôlement intéressant. En immigration, il manque une question. Croyez-vous que le Québec devrait revendiquer les pleins pouvoirs en matière d'immigration? Je comprends, ce n'était pas un référendum, c'est une consultation. Mais c'est une question centrale, ça. En éducation et enseignement supérieur, il manque une question, une très, 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 très délicate question. Puis c'est pas parce que j'aimerais ça qu'on la pose que je suis d'accord, mais je pense qu'elle devrait être là. Est-ce qu'on doit étendre l'application de la loi 101 ou 96 là, au cégep? La question n'est pas là. Elle est drôlement importante, cette question-là. Donc, moi, je trouve que... Je sais pas, on évite les questions délicates ou qui auraient peut-être divisé le caucus caquiste aussi.
Mais donc, Sylvain, ça veut dire que même en 2023, c'est difficile de tenir un débat ou une conversation, disons là, comme on veut, là, sur la langue dans un climat serein?
Est-ce que ça aurait impliqué que le débat soit moins serein, que les questions que j'ai citées soient posées? Je pense pas.
C'est des questions de plus, là.
Moi, je trouve qu'elles sont incontournables. Puis il y a par ailleurs la qualité de la langue, Denis. Hein.
Oui, bien ça, c'est l'autre niveau de discussion, là. Il l'aborde un peu dans le questionnaire. Ouais. Mais la question... Moi, il y a quand même des affaires que... Tu sais, on s'en est parlé un peu tous les deux. Moi, j'aimerais ça qu'on soit capable d'identifier le fait que les gens aujourd'hui... Pas juste les jeunes, hein, puis je veux pas stigmatiser les jeunes là-dedans, là, parce que moi, je suis plutôt... les jeunes l'ont peut-être vu dans ma chronique dans Les Deux Rives cette semaine. Là, je suis plutôt un admirateur des jeunes générations. Est-ce que les gens, malgré tout, ne maîtrisent pas mieux le français aujourd'hui qu'il y a 50 ans au Québec?
Sûrement.
Mais non, mais je pose la question. C'est des données qu'on n'a pas, ça.
C'est vrai. Moi, l'avènement des réseaux sociaux, là, ça a eu pour moi l'effet d'un électrochoc, celui de voir tant de publications truffées de fautes grossières. Par ignorance ou par paresse de se relire. Puis la qualité du français parlé n'est pas plus édifiante. Là où il me semble que des gens ont un devoir d'exemplarité. Je pense à la radio et à la télévision, là, largement, là, toutes les stations de radio et de télévision confondues. C'est inégal d'une station à l'autre, d'une émission à l'autre, mais est-ce qu'on ne devrait pas s'imposer, nous qui sommes des communicateurs, de communiquer dans le meilleur français possible? Est-ce qu'on accepterait qu'un plombier ne sache pas manier le coupe-tube du menuisier qui ne sache pas se servir du niveau ou du chirurgien qui ne soit pas trop habile avec le scalpel? Pourquoi ce serait acceptable que l'animateur ou le journaliste ne maîtrise pas son principal outil de travail qui est le français? Bien, c'est devenu acceptable aujourd'hui.
C'est intéressant aussi parce que on parle de français langue commune, là on parle de qualité de la langue. Tout à l'heure on parlait d'identité. Là ce vers quoi tu nous amènes, c'est la qualité de la communication. Si je veux que tu comprennes bien ce que je dis, j'ai intérêt à l'exprimer clairement, parce que sinon, on part dans toutes les directions. La langue, OK, c'est pas simplement une addition de mots. La langue, c'est une occasion de bien exprimer ce qu'on souhaite exprimer pour partager des idées, pour partager des moments, des émotions. Les exemples d'incompréhension sont extraordinaires. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à valoriser cet aspect-là?
Absolument. Ben, moi, ce que je trouve, là, fondamentalement, c'est que les Québécois, les gouvernements auront beau adopter toutes les lois possibles, faire toutes les campagnes de promotion possibles, si on ne démontre pas, Louis Lemieux l'a dit un peu, si on ne démontre pas nous-mêmes notre attachement à notre langue, en exigeant d'être servi en français, ce qui n'est pas toujours simple à Montréal, en surlisant avant de publier nos états d'âme sur Facebook, là, c'est pas long, on surlit, tu sais, on ne fait pas publier tout de suite, on regarde, on a-tu oublié un S? En se disciplinant aussi quand on est en promotion, en position de promouvoir le français, de le bien parler, si on ne fait pas tout ça nous-mêmes, là, ça mènera pas à grand-chose de ce que le gouvernement tente de faire.
Et j'invite les gens à répondre aux questionnaires. Vous allez voir, il y a des boîtes de commentaires. Vous avez le droit d'ajouter vos commentaires. On répond aux questions, mais on peut ajouter aussi des éléments. Alors, je vous suggère de le faire. Merci, Sylvain Rochon, d'avoir accepté de participer.
Ça m'a fait plaisir, Denis.
Moi, je veux dire un merci spécial aujourd'hui, quelque chose que je veux faire depuis le 12 janvier que j'ai commencé à animer cette émission-là, qui est de remercier Jeff Paquet, qui est le directeur de la station, mais qui fait la mise en onde de mon émission, parce que je suis tellement concentré sur ces questions que j'ai pas...
Puis tu as bien prononcé son nom de famille.
Oui.
Paquet.
Bon, d'accord.
Il n'y a pas de TTE.
Au plaisir de vous retrouver.